VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue à l'édition du 4 février 2015. À la une ce soir.
Sanglante contre-attaque des islamistes de Boko Haram après l'offensive tchadienne au Nigeria.
Violence dans le nord du Mali, des affrontements ont opposé les groupes rebelles rivaux près de Tabankor.
RDC, au moins 17 personnes ont été tuées à l'arme blanche la nuit dernière en périphérie de Beni, dans le nord Kivu.
En Guinée, plusieurs centaines de personnes ont été arrêtées et 5 ont été blessées lors de manifestations de l'opposition cette semaine.
Condamnation et réaction de colère à travers le monde après l'exécution macabre d'un pilote jordanien capturé par le groupe État islamique.
Nous aurons également nos segments sur la Coupe d'Afrique des Nations et l'économie. Mais d'abord, le journal.
Sanglante contre-attaque ce mercredi des islamistes de Boko Haram après l'offensive tchadienne au Nigeria. L'AFP rapporte que le groupe terroriste nigérian a tué des dizaines de civils et brûlé la grande mosquée de la ville de Fotokol au Cameroun avant d'être de nouveau repoussé par les soldats camerounais et l'armée tchadienne. On fait le point avec Jacques Aristide.
C'est aux petites heures du matin que des hommes de Boko Haram, venus de Gamboru et d'autres villages nigérians frontaliers du Cameroun, ont attaqué Fotokol, d'après des témoignages recueillis par l'AFP. Les insurgés ont profité de l'absence momentanée de l'armée tchadienne, partie traquer les islamistes dans la région frontalière. Selon un témoin, les insurgés ont égorgé plusieurs personnes, dont le grand marabout de la grande mosquée de Fotokol, avant de mettre le feu à ce lieu de culte et à des maisons. Cette nouvelle attaque de Boko Haram survient le lendemain de la première offensive des troupes tchadiennes sur le territoire nigérian. L'état-major de l'armée tchadienne affirme avoir délogé les islamistes de la ville de Gamboru et tué plus de 200 d'entre eux. Et d'ajouter que 9 de ces soldats ont aussi perdu la vie. Depuis lundi, l'aviation nigériane bombarde des camps des militants islamistes dans la forêt de Sambisa, où Boko Haram avait emmené, en avril, près de 300 lycéennes enlevées à Chibok.
Toujours au Nigeria, dans le sud cette fois-ci, 4 employés d'une compagnie pétrolière ont été enlevés dans le delta du Niger. D'après l'armée citée par l'AFP, les victimes, des Nigérians, se déplaçaient sans escorte. Leurs assaillants étaient à bord d'un bateau. Une opération de sauvetage est en cours, affirment les autorités.
Nouvelle violence dans le nord du Mali, près de Tabankor. Des affrontements ont opposé les rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad à des groupes armés pro-gouvernementaux. C'est ce qu'a déclaré une source au sein de la MINUSMA citée par l'AFP. Les groupes pro-gouvernementaux ont pris le contrôle de la localité de Tabricha, précise la même source. Les deux camps affirment toutefois avoir pris le dessus. Et à Tombouctou, un véhicule de l'armée malienne a sauté sur une mine. A-t-on appris auprès des protagonistes.
République démocratique du Congo, au moins 17 personnes ont été tuées à l'arme blanche la nuit dernière en périphérie de Beni, dans le nord Kivu. Les victimes ont été tuées à coups de machette, indique l'AFP, citant une source policière de Goma, la capitale de cette province congolaise. Nathalie Barge a joint Omar Kavota, porte-parole de la société civile du nord Kivu.
Nous sommes dans la douleur de partager avec vous la nouvelle relative au massacre qui vient de se produire non loin de Beniville, à Kibidiwe, entre 15 et 18 kilomètres de la ville. Ici, des rebelles, des terroristes ADF Nalu ont investi cette partie. Ils se sont introduits dans les maisons des agriculteurs. Ils ont tué parmi ces agriculteurs 21 personnes, dont 14 hommes et 7 femmes, et des personnes dont l'âge varie entre 20 et 60 ans. C'est la nuit de mardi à ce mercredi.
Plusieurs centaines de personnes ont été arrêtées et 5 ont été blessées par balles lors de manifestations de l'opposition qui ont eu lieu en Guinée depuis le début de la semaine. On fait le point avec Claire Morin-Gibourg.
En Guinée, les manifestations démarrées en début de semaine ont pris de l'ampleur ce mercredi. Selon le gouvernement, une 50aine de personnes ont été blessées et une 30aine arrêtées dans la ville de Labé, fief de l'opposition à 400 km de Conakry. Le principal opposant du pays, l'ex-premier ministre Sélou Dalein Diallo, a déclaré à l'AFP que plusieurs centaines de personnes avaient été arrêtées à Labé et que les médecins de l'hôpital de la ville étaient en grève pour protester contre des arrestations effectuées dans l'hôpital. Selon lui, l'armée et les gendarmes ont tiré et 5 personnes ont été blessées par balles. Monsieur Diallo dénonce l'intimidation et la répression sauvage, selon ses propres termes, du gouvernement à l'approche de l'élection présidentielle.
Remont politique au Burkina Faso, le Conseil des ministres n'a pas eu lieu aujourd'hui à cause de tensions entre le Premier ministre, le lieutenant-colonel Isaac Zida, et la garde présidentielle dont il est le numéro 2. C'est ce qu'indique l'AFP citant des sources sécuritaires. Les ministres ont donc attendu le chef du gouvernement. En vain, et pour cause, Isaac Zida était en réunion avec des membres du régiment de sécurité présidentiel qu'il a appelé récemment à dissoudre. Ce régiment d'élite a été pointé du doigt par Amnesty International en décembre pour son usage excessif et létal de la force durant les manifestations anti-Compaoré, de même que certains gendarmes et militaires.
Au Gabon, l'Union nationale, principal parti d'opposition, est de nouveau autorisé. Ce parti a été dissous en 2011. Une élection présidentielle est prévue l'année prochaine au Gabon.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le monde musulman comme ailleurs, c'est l'indignation après la publication d'une vidéo du groupe État islamique montrant le pilote jordanien Maaz al-Kassabeh en train de brûler vif dans une cage. La Jordanie a exécuté tôt ce matin 2 membres du groupe condamnés à mort il y a quelques années pour acte de terrorisme. Michel Joseph.
En Jordanie, le meurtre de Kassabeh aura eu pour effet immédiat de rallier la nation contre les djihadistes de l'État islamique. Des centaines de personnes ont manifesté hier soir pour dénoncer l'exécution du pilote et réclamer vengeance. La télévision d'État a annoncé sa mort en diffusant des chansons patriotiques et des programmes sur l'armée jordanienne. Les autorités, y compris le roi Abdullah, qui était en visite à Washington, ont promis une riposte des plus sévères. En Syrie, où l'État islamique contrôle une partie du territoire, le gouvernement a condamné ce qu'il qualifie de crime terroriste ignoble des djihadistes, tout en rappelant qu'Aman a permis à des milliers de salafistes de traverser sa frontière pour rejoindre le combat contre le régime du président Bachar al-Assad. De son côté, le chef de la coalition de l'opposition syrienne, Khaled Khoja, a condamné un acte barbare et appelé à un soutien international, non seulement contre l'État islamique, mais aussi contre le régime. Les États du Golfe, en particulier Bahreïn, Qatar et le Koweït, ont également condamné l'acte posé par les djihadistes. Ils estiment, selon l'AFP, que de telles exactions sont des affronts à l'islam et à toutes les religions. Ce sentiment est partagé par les Saoudiens, alliés de la coalition dirigée par les États-Unis. L'AFP cite une source officielle affirmant qu'un tel acte ne pouvait avoir été commis que par des ennemis de l'islam. Le gouvernement iranien réagit contre ce qu'il appelle un meurtre inhumain et anti-islamique. Le président américain Barack Obama a dénoncé hier la barbarie de ces terroristes et appelé à redoubler de vigilance et de détermination pour lutter contre le groupe État islamique. Maaz al-Kassabeh avait été capturé en décembre par les djihadistes alors qu'il participait à des frappes aériennes de la coalition internationale contre l'État islamique.
Le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Federica Mogherini, appelle à une trêve immédiate dans l'est de l'Ukraine où les combats ont fait 3 autres victimes selon des sources officielles. Des témoins ont vu les 3 corps à Donetsk près d'un hôpital touché aujourd'hui par des tirs d'obus. La population de cette ville est passée de 25 000 à 7 000 personnes en quelques jours, a affirmé Amnesty International, cité par l'AFP. Le conflit entre l'armée ukrainienne et les rebelles séparatistes a déjà fait plus de 5300 morts en 10 mois, selon l'ONU.
Par ailleurs, la France a annoncé qu'elle n'a pas l'intention de fournir maintenant des armes létales à l'Ukraine, selon l'AFP qui cite le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Cette mise au point, rappelle l'agence, intervient alors que le débat s'intensifie en Europe sur l'opportunité de livrer des armes à Kiev et que les États-Unis disent envisager la possibilité de fournir des armes défensives à l'Ukraine.
Un avion commercial taïwanais a heurté un pont avant de s'abîmer dans un fleuve près de la capitale de Taïwan, Taipei. Bilan, au moins 23 morts, disent les médias d'État. L'appareil de la TransAsia Airways avec 58 personnes à son bord. Les équipes de secours ont pu sauver plusieurs passagers, mais 20 d'entre eux sont portés disparus, selon une source officielle.
6 morts et une dizaine de blessés, c'est le bilan d'une collision survenue hier soir non loin de la ville de New York. Un train a percuté une Jeep Cherokee dans la localité de Valhalla, à 32 km au nord de New York, causant l'explosion du véhicule. Le pilote du tout-terrain ainsi que 5 des 650 passagers du train sont morts sur le champ. Un premier bilan avait fait état de 7 morts.
Il n'y aura pas de reprise des pourparlers avec les États-Unis. C'est la déclaration faite aujourd'hui par la Corée du Nord, accusant Washington, encore une fois, de vouloir renverser le régime communiste. La Commission nationale de défense, le plus important organe militaire de la Corée du Nord, a aussi menacé des attaques nucléaires et des cyberattaques contre les Américains. De tels propos incendiaires précèdent généralement les manœuvres militaires conjointes entre les États-Unis et la Corée du Sud. Ces exercices sont prévus pour le mois de mars.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au journal de la Cannes avec Nicolas Pinot.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal de la Cannes sur VOA Afrique. Le jour de gloire est arrivé pour les Congolais ou les Ivoiriens en demi-finale. La Côte d'Ivoire va-t-elle réussir à se qualifier pour sa troisième finale sur les 6 dernières Coupes d'Afrique des Nations ? Réponse à 19h, temps universel. Les partenaires de Yaya Touré sont en confiance après avoir éliminé tour à tour le Cameroun et l'Algérie. Les Ivoiriens sont donc logiquement présentés comme les favoris sur ce match. Mais attention, hier, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Hervé Renard, a appelé ses joueurs à être humbles. De son côté, la République démocratique du Congo a reçu hier la visite du président Joseph Kabila, venu encourager les Léopards, dont la dernière demi-finale remonte à 1998. Le sélectionneur Florent Ibenge est conscient de l'enjeu. Il espère que ses troupes pourront à nouveau se surpasser. On l'écoute.
On doit les jouer comme si c'était l'Algérie. On allait les jouer aussi. Maintenant, on est content d'être en demi-finale. La Côte d'Ivoire est là. On va être content de faire le meilleur match possible pour tout faire pour se retrouver en finale. On va tout faire, vraiment on va tout faire. On a la possibilité de se retrouver en finale de cette compétition. Ça n'arrive pas tout le temps, donc on se doit de tout donner pour y être.
Le sélectionneur Florent Ibenge au micro de Thierry Kambundi de notre partenaire Top Congo à Kinshasa. Et demain, l'autre demi-finale entre le Ghana et la Guinée équatoriale. Aujourd'hui, en conférence de presse, la star du Ghana, André Ayew, a dit espérer que tout se passera bien avec les arbitres. On n'a pas de crainte. On se souvient évidemment de la grosse polémique du quart de finale entre la Guinée équatoriale et la Tunisie. À noter aussi sur ce match que le capitaine Asamoah Gyan est incertain pour la rencontre en raison d'un coup à la hanche en fin de rencontre face au Sili National de Guinée. Non, ne me teste pas, non, j'ai la balle, ne me teste pas. En bref, la CAF a suspendu pour 6 matchs Sichourne Rajin Drapassar, l'arbitre du match Guinée-Équatoriale-Tunisie. Lors d'une autre réunion tenue au siège de la CAF, le jury disciplinaire a examiné tous les incidents et les rapports des différents officiels relatifs à ce match. La fédération tunisienne écope d'une amende de 50 000 $ pour le comportement insolent, agressif et inacceptable des joueurs, ainsi que des officiels tunisiens lors du match, c'est ce qu'écrit la CAF. La Confédération africaine menace la Tunisie de ne pas participer à la CAN 2017 si les Aigles de Carthage ne présentent pas leurs excuses. Voilà, ainsi s'achève ce journal de la CAN. Prochain point sur la compétition demain matin dans Le Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, la Minute Éco avec Nathalie Barge. Bonsoir Nathalie.
Oui, bonsoir.
Un grand forum économique pour l'Afrique est attendu à Paris.
Oui, c'est le forum franco-africain pour une croissance partagée qui aura lieu vendredi. Il s'articulera autour de deux thèmes intitulés « La jeunesse et l'entrepreneuriat au cœur de la croissance » et « Innovation financière pour une croissance inclusive et durable ». Il fait suite à la conférence économique du sommet de l'Élysée pour la paix et la sécurité. Bien sûr, plus plusieurs chefs d'État y sont attendus, des ministres de l'économie, des dirigeants de banques centrales et de développement et de nombreux chefs d'entreprise.
Et quels seront les thèmes de ce forum?
Alors les thèmes seront déclinés à divers secteurs tels que la technologie d'information et de communication, bien sûr, la formation, l'énergie, les transports et les investissements, entre autres. Et sachez bien sûr que la Guinée, qui a envoyé une importante délégation à ce forum, attend beaucoup de cette rencontre suite à l'épidémie d'Ebola ayant fortement touché son secteur économique, nous dit l'économiste Assoumane Camara, joint à Conakry.
Nous espérons qu'avec la fin de l'épidémie Ebola, que cet événement sera mis à profit pour mobiliser un nombre important d'acteurs du secteur privé pour un investissement promoteur en République de Guinée. Alors, nous espérons beaucoup de choses pour la jeunesse. Il existe en ce moment en Guinée plusieurs programmes pour la promotion de l'emploi jeune en République de Guinée. La Guinée vient de signer, je vous rappelle, un accord d'appui pour un programme d'employabilité de la jeunesse pour un montant de 20 millions de dollars des États-Unis.
Voilà, c'était Assoumane Camara, directeur de publication du journal L'Économiste en Guinée.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Nathalie Barge.
C'est les Morgane Guiriec en votre compagnie. Place au dossier du jour. Retour sur la contre-attaque de Boko Haram au Cameroun. Les militants islamistes chassés de Gamboru au Nigeria s'en sont pris aujourd'hui aux troupes tchadiennes dans la localité camerounaise de Fotokol. Idriss Fall a recueilli le témoignage d'Abba Fani Moussa, un habitant de Fotokol.
Ce matin, vers 5h du matin, les insurgés sont infiltrés dans la ville de Fotokol. Ils sont entrés dans les mosquées, les différentes mosquées. Ils ont égorgé les gens. Ils ont tué beaucoup de personnes, disons. Alors, ils sont entrés de porte à porte pour tuer les gens. Après, il y avait une intervention des forces armées, Tchado, Camerounais. Et c'est comme ça qu'ils ont réplié. Le combat, c'est à peu près c'est de 5h jusqu'à 8h comme ça. Le calme est revenu pour le moment, le calme est revenu. C'est l'armée camerounaise qui est en train de contrôler la ville de Fotokol actuellement.
Mais qu'est-ce que c'est que vivre à Fotokol avec ces menaces constantes de Boko Haram?
Oui, effectivement, ces menaces viennent du Nigeria, ça provient du Nigeria toujours. C'est Boko Haram qui vient du Nigeria, et puis il vient, bon, de temps en temps, faire inscription au Cameroun, et après ils rentrent, c'est comme ça qu'ils font.
Fotokol est une ville jumelle, vous êtes séparés par un pont. Est-ce que vous savez ce qui se passe de l'autre côté du pont, dans la ville de Gamboru?
À Gamboru, c'est l'histoire qui a commencé depuis 2009. Donc c'est depuis 2009 qu'il y a toujours ces menaces de Boko Haram. Ça a commencé toujours par des intégristes. Après, ça s'est transformé en Boko Haram. Et ça s'est évolué jusqu'à ce stade. Et maintenant, c'est devenu autre chose.
Mais est-ce que vous savez si ce sont les soldats tchadiens qui contrôlent toujours Gamboru ou pas?
Effectivement, c'est les soldats tchadiens qui contrôlent Gamboru. Et ils contrôlent Gamboru. Depuis hier, ils contrôlent Gamboru.
Et qu'est-ce que c'est de vivre dans cette terreur au quotidien? Comment font les gens?
À Fotokol, effectivement, les boutiques sont fermées. Les gens sont allés et les boutiques sont fermées. S'ils étaient surpris de voir ces massacres ce matin.
En tant que musulman, qu'est-ce que vous pensez de ce que fait Boko Haram?
Je suis musulman, mais nous-mêmes là, nous sommes contre ces sectes qui sont en train de semer la terreur partout et gâter le nom des musulmans. Parce que l'homme musulman ne doit pas quand même commettre des actes comme ceci, des actes barbares. Donc des tueries qui n'ont pas de sens. Alors, et nous musulmans, on condamne ces actes.
Et que pensez-vous de l'arrivée des soldats tchadiens? Est-ce que ça vous rassure?
Mais ça nous rassure aussi, ça nous rassure. L'arrivée des soldats tchadiens nous rassure. Avant, on avait la peur, mais maintenant, quand même, l'air arrivé d'hier, mais nous sommes rassurés par l'arrivée des soldats tchadiens.
Abba Fani Moussa, un habitant de Fotokol au Cameroun.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum. Ce jeudi, gros plan sur la double offensive camerouno-tchadienne contre Boko Haram. L'Union africaine, elle, veut une force régionale contre le groupe islamiste nigérian. Toute cette mobilisation peut-elle arrêter Boko Haram? Questions et commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum. Ce jeudi, à 19h TU.
En Côte d'Ivoire, le président du Conseil constitutionnel, Francis Wodier, a démissionné mardi. Quelles sont les conséquences d'une telle démission pour l'élection présidentielle prévue à la fin de l'année 2015? Jean-Roger Billon, adjoint à Abidjan, Fernand-Julien Gauze, membre de la société civile, président de l'ONG Agir pour la démocratie, la liberté en Côte d'Ivoire.
Malheureusement, il n'y a pas eu de déclaration du président du Conseil constitutionnel. Nous ne sommes pas en mesure de vérifier la raison de cette démission, que rien ne laissait présager, parce que constitutionnellement, le président du Conseil constitutionnel est nommé pour une durée donnée et il ne peut pas être remplacé avant le terme donc de son mandat.
Quels sont les soucis que peuvent engendrer une telle démission qui surprend tous les acteurs politiques sur l'échiquier alors qu'il y a de grandes échéances à l'horizon?
Il y a des supputations, des murmures que l'on entend, pour le moment qui n'ont pas de fondement réel. C'est pour ça qu'on aurait été content, du moins plus rassuré, s'il y avait une déclaration du président du Conseil qui, en tant que haut fonctionnaire à ce niveau de responsabilité, avant de démissionner, au moins écrit une lettre dans laquelle il explique pourquoi il démissionne. Les conséquences sur le processus électoral de manière formelle sont nulles, il n'y en a pas. Le changement de personne n'entraîne pas la cessation de fonctionnement du Conseil constitutionnel, mais les conséquences seront plutôt au plan politique où les différents protagonistes, les différentes parties prenantes pourraient trouver des raisons de s'inquiéter que le juge constitutionnel seul, à qui la Constitution confère des pouvoirs absolus pour juger de tous les actes liés à l'élection, en particulier de l'élection présidentielle, qu'il démissionne à quelques mois de l'ouverture, cela peut poser un problème. Cela peut affecter même le consensus politique qui est indispensable à la tenue sereine des élections.
Alors, c'est la présidence de la République qui a annoncé la démission du président du Conseil constitutionnel. Peut-on soupçonner l'exécutif d'avoir manœuvré en sous-main pour que cela soit ainsi?
On ne peut pas aller aussi loin que cela. Nous n'avons aucun moyen d'investigation. Le dire serait présomptueux. Ce serait faire des accusations sans fondement. On s'en tient à la lettre de ce qui a été déclaré par la présidente, à savoir que l'intéressé a démissionné. Et dans certains journaux, il semblerait qu'on ait tenté de le joindre pour connaître sa version des faits. Et le titre serait déclaré indisponible.
Voilà, c'était Fernand-Julien Gauze, membre de la société civile ivoirienne.
Médecins sans frontières a ouvert 2 centres pour les victimes de violences sexuelles en République centrafricaine, un pays en proie aux violences intercommunautaires depuis 2013, Camille Gros-Didier.
Ces centres, tous deux situés à Bangui, sont d'autant plus importants que si les victimes de viol peuvent se faire soigner dans les 72 heures après l'agression, elles peuvent recevoir un traitement d'urgence visant à empêcher la transmission du VIH-Sida ou encore une grossesse non voulue. Triste réalité, selon l'infirmière Sylvie Gonekra, la plupart des victimes de sévices sexuels ne se présentent au centre de soins que beaucoup plus tard.
Pour les femmes de Centrafrique, le viol pour eux, ça constitue une honte. Donc, elles ne veulent pas parler de ça. Donc, parfois, il y a des femmes qui sont violées, mais qui ne viennent pas à l'hôpital. Elles restent dans le quartier, attristées, toutes seules, renfermées.
Faute de statistiques, impossible de cerner l'ampleur du problème des violences sexuelles en République centrafricaine. Ce qu'on sait, c'est qu'en dépit des efforts du gouvernement intérimaire et des soldats de maintien de la paix pour rétablir la sécurité, ces violences persistent. Le centre ouvert par MSF en juillet dernier à Bangui cherche à offrir des soins médicaux et psychologiques. Plus de 500 victimes s'y sont présentées ces derniers mois. Un second centre a été ouvert à Bangui et les efforts se poursuivent pour faire connaître son existence. En premier lieu, il faut laisser les victimes évoquer librement leur traumatisme. Je pense à mon mari tout le temps. Il s'est enfui quand les Séléka ont envahi la ville et tué les hommes. Cela fait un an que je suis sans nouvelles. Je pense qu'il est mort, raconte une centrafricaine. Rassurer, calmer, écouter, telle est la mission que se sont donnés les responsables de MSF. Mais selon la psychologue Roselyne Menant, le premier défi reste d'aider les victimes à comprendre ce que c'est qu'un psychologue dans un pays où ils sont rares.
C'est un pays dans lequel il n'y a pas de formation de psychologue. Les psychologues n'existent pas.
J'essaie de leur faire comprendre
qu'il y a les blessures du corps que l'on voit et qu'il y a aussi des blessures de la tête que l'on ne voit pas.
Qui se présente au centre de MSF? Selon Madame Menant, ce sont des femmes de tous les âges, parfois des enfants ou encore des hommes. Tous sont marginalisés du fait de ce qui leur est arrivé et ils n'ont personne à qui parler. En plus des consultations individuelles, les victimes sont regroupées pour s'appuyer mutuellement.
Une des forces de ce groupe de parole a été justement que des femmes, toutes victimes de violences sexuelles, se retrouvent. Toutes, on dit, on croyait qu'on était seules.
Roselyne Menant a noté que les deux centres de MSF à Bangui sont les seuls à accueillir et soigner les victimes de violences sexuelles dans un pays où l'insécurité persiste.
L'indignation est à son comble au Moyen-Orient après le meurtre du pilote jordanien brûlé vif par le groupe État islamique. De nombreux dignitaires religieux du monde arabe ont condamné l'acte. Le grand cheikh de l'université Al-Azhar au Caire estime que les meurtriers méritent d'être tués, crucifiés et amputés de leurs membres. Timothée Donangmaï a joint au Caire Hicham Mourad, rédacteur en chef d'Al-Aram Hebdo.
Ils ont condamné, bien sûr, un acte assez barbare, je dirais. Bon, peut-être ils n'ont pas utilisé le même terme, mais moi je trouve cette exécution est cette exécution sommaire. Ils n'ont pas le droit déjà de prononcer de telles exécutions. Et quand on peut prononcer la peine capitale, il y a la justice, il y a des procédures normalement judiciaires. Mais bon, on parle d'un groupe extrémiste terroriste qui ne croit ni ne reconnaît le système judiciaire et prend lui-même les décisions d'exécuter ou de tuer quelqu'un selon leur propre interprétation qu'ils font de la religion.
Quelles sont les réactions dans le monde arabe?
Et essentiellement, c'est la désapprobation et la condamnation d'un tel acte aussi, je dirais encore une fois, barbare et complètement inadmissible et inacceptable. Personne ou aucun groupe n'a le droit de prononcer de telles et d'exécuter de telles sentences et de tels jugements contre quiconque.
L'État islamique bénéficiait jusqu'ici du soutien d'une certaine frange du monde musulman, du monde arabe. Quelle pourrait être l'incidence du meurtre du pilote jordanien?
Non, mais écoutez, ils peuvent avoir éventuellement l'approbation d'un certain segment ou d'une certaine frange de la population pour d'autres raisons. C'est-à-dire pour d'autres raisons, ils interviennent parce qu'ils disent qu'il y a des interventions étrangères ou il y a une ingérence étrangère ou qu'ils peuvent intervenir, bien sûr, contre le régime en Syrie, etc. Ils ont un certain nombre de griefs éventuellement, parfois, qui sont partagés par d'autres, c'est-à-dire pour des bonnes causes éventuellement. Mais de là à justifier de tels actes, c'est un autre pas.
Pensez-vous qu'il y aura donc une mobilisation de l'opinion publique du monde musulman contre l'État islamique?
Oui, je pense que cet acte ne peut que mobiliser ou donner raison à ceux qui combattent l'État islamique. Personne ne peut accepter de tels actes, je dirais encore une fois barbares, qui sont désapprouvés par toutes les religions, par toutes les lois possibles.
Voilà, c'était Hicham Mourad, rédacteur en chef d'Al-Aram Hebdo, joint au Caire.
Chers auditeurs de VOA Afrique, c'est votre gars Roger Moutou de RM Show. Restez branchés ce soir entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Ne ratez pas votre émission interactive. Notre sujet hebdomadaire, la question, le vrai amour entre l'homme et la femme, existe-t-il vraiment? Comment le discerner? Vous avez posé cette question sur notre groupe Facebook Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Certains pensent que l'amour est une grande illusion. Qu'en sais-je? Mais nous allons en parler aujourd'hui. Pourquoi pas le reste de la semaine? Nous aurons plusieurs invités dans notre studio 13 de VOA. Nous lirons vos mails et vos commentaires postés sur notre groupe Facebook Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Mais appelez aujourd'hui entre 20h et 21h, temps universel, au 001-202-619-3140. Aïe, l'amour. Peace Africa!
Les grands points de l'actualité.
Sanglante contre-attaque ce mercredi des islamistes de Boko Haram après l'offensive tchadienne au Nigeria. L'AFP rapporte que le groupe terroriste nigérian a tué des dizaines de civils et brûlé la grande mosquée de la ville de Fotokol au Cameroun.
RDC, au moins 17 personnes ont été tuées à l'arme blanche la nuit dernière en périphérie de Beni dans le Nord Kivu. Ainsi va Le Monde aujourd'hui. La mise en onde a été assurée par Georges Léonard Sagno et Nashan Kwalkale.
Voilà.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone sur 99 FM Abidjan, Raga FM 90.5 Mbujimayi, 93.5 FM Lomé, Kledou FM 90.5 Sikasso Mali et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.